On m'a donc demandé de parcourir, je ne sais pas, 3 siècles d'histoire rurale en 20 minutes et d'essayer de faire un peu le bilan, les perspectives, les cheminements. Pendant longtemps, vous le savez tous, et je pense que je ne vais rien apprendre à beaucoup d'entre vous, mais peut-être simplement remettre en place des souvenirs. Pendant longtemps, l'histoire, la grande histoire, ne s'intéressa nullement au peuple des campagnes. Celui-ci n'était pas acteur d'un récit tout entier consacré d'abord au roi et à ses actions, ensuite aux puissants, aux guerriers et aux saints. Le peuple des villes pouvait à la rigueur apparaître au détour d'une émeute de la populace ou comme spectateur d'une cérémonie. Sur le peuple rural, sur le mulet de l'État, silence de ceux qui écrivaient l'histoire. Voltaire, qui innove pourtant en matière historiographique, ne consacre qu'un bref développement au problème qui nous occupe. Il n'empêche que je vous propose quand même de voir en lui, au chapitre 30 du siècle de Louis XIV, le premier fondateur, en quelque sorte, de l'histoire rurale. L'industrie s'étant perfectionnée dans les villes, s'est accrue dans les campagnes. Il s'élèvera toujours des plaintes sur le sort des cultivateurs, on les entend dans tous les pays du monde, vous voyez que rien n'est changé sous le soleil, et ces murmures sont presque partout ceux des oisifs opulents qui condamnent le gouvernement beaucoup plus qu'ils ne plaignent les peuples. Il est vrai que presque en tout pays, si ceux qui passent leur jour dans les travaux rustiques avaient le loisir de murmurer, ils s'élèveraient contre les exactions qui leur enlèvent une partie de leur substance. Ils détesteraient la nécessité de payer des taxes qui ne se sont point imposées, et de porter le fardeau de l'État sans participer aux avantages des autres citoyens. Je passe quelques lignes, et voici, j'allais dire, la fondation de l'histoire rurale pour le siècle de Louis XIV. On a planté plus de vignes, et on les a mieux travaillées. On a fait de nouveaux vins qu'on ne connaissait pas auparavant, tels que ceux de Champagne, auxquels on a su donner la couleur, la sève et la force de ceux de Bourgogne et qu'on débite chez l'étranger avec un grand avantage. Cette augmentation des vins a produit celle des eaux de vie. La culture des jardins, des légumes, des fruits a reçu de prodigieux accroissements et le commerce des comestibles avec les colonies de l'Amérique en a été augmenté. Les plaintes qu'on a de tout temps fait éclater sur la misère de la campagne ont cessé alors d'être fondées. Ô manne de la Chivère et de Goubert, révoltez-vous. D'ailleurs, dans ces plaintes vagues, on ne distingue pas les cultivateurs, les fermiers, d'avec les manœuvres. Ceux-ci ne vivent que du travail de leurs mains, et cela est ainsi dans tous les pays du monde où le grand nombre doit vivre de sa peine. Mais il n'y a guère de royaume dans l'univers où le cultivateur, le fermier, soit plus à son aise que dans quelques provinces de France, et l'Angleterre seule peut lui disputer cet avantage. Bon, je n'insiste pas, je vous propose de baptiser Voltaire fondateur de l'histoire rurale, même si les historiens du siècle de Louis XIV auraient beaucoup à dire sur sa vision idyllique. Bien évidemment, il n'y a là qu'une préhistoire. L'histoire rurale naît véritablement en France, dans le mouvement général de curiosité pour le passé lointain et le monde disparu de la vieille monarchie qui suit la tourmente révolutionnaire. Ses débuts s'inscrivent dans le goût romantique pour le Moyen-Âge, un Moyen-Âge étendu d'ailleurs à la Renaissance, les châteaux et les troubadours. Ils sont contemporains des grandes créations d'une politique de la recherche et l'histoire des campagnes naît de la réflexion des historiens et des juristes sur la condition des biens et des personnes, thème familier à des gens confrontés à la société nouvelle née de la Déclaration de 89 et du Code civil. Plutôt qu'à Voltaire, je ferai volontiers naître l'histoire rurale en 1844, lorsque Benjamin Guérard, éditant le fameux Politique d'Irminon, rédige les Prolégomènes, cet énorme commentaire. Il y traite du mans comme forme d'exploitation, des différentes catégories de dépendants, de métrologie, de techniques agricoles, de rendement. Mais on peut aussi fixer ce début au grand travail de Léopold de Lisle, la condition de la classe agricole et l'état de l'agriculture en Normandie au Moyen Âge, paru en 1851, étude monumentale, inscrite naturellement dans un cadre régional et qui est devenue une sorte de matrice d'inspiration pour de nombreux ouvrages postérieurs. À partir de ce milieu du XIXe siècle et en gros jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'histoire rurale put se développer, non pas vraiment comme une discipline autonome, mais bien plutôt encore comme une annexe d'une histoire événementielle tournée vers la compréhension des évolutions juridiques, économiques et sociales. Deux périodes et deux thèmes se trouvent en fait privilégiés par les chercheurs dans, disons en gros, la seconde moitié du XIXe siècle. Chronologiquement, d'une part, le Moyen Âge, qui mobilise les curiosités et plus encore les publications de textes, et d'autre part, la fin du XVIIIe siècle, parce qu'on cherche inlassablement à comprendre le grand ébranlement révolutionnaire, soit pour le justifier, soit pour en dénoncer l'inutilité. Du point de vue thématique, il me semble que deux thèmes aussi sont prépondérants. D'une part, l'aspect juridique de la condition des personnes et des biens, des formes du servage à la nature du système féodal. Et vers la fin de la période, dans la voie ouverte par Lutschinski, le problème de la propriété du sol et de sa répartition sociale. Faut-il dresser un florilège pour cette époque? D'un côté, et bien entendu, je ne cite que quelques titres, sinon ce discours deviendrait le catalogue de l'ABN, les travaux de Fustel de Coulanges, par exemple, sur l'Alleu et le domaine rural à l'époque mérovingienne, 1889, de Robillard de Beaurepaire sur la Normandie, plusieurs choses, d'Henri C., sur les classes rurales et le régime domanial en France au Moyen Âge, en 1901, quelques années après un premier essai limité sous le même titre à la Bretagne, 1896. Les travaux de Brutels sur les Pyrénées orientales, étude de la condition des populations rurales du Roussillon, 1891. De l'autre côté chronologique, après le livre précoce de Théron de Montaugé, un peu oublié aujourd'hui, L'agriculture et les classes rurales dans le pays toulousain depuis le milieu du XVIIIe siècle, 1869, nous sommes des héritiers, qui suivait de peu les pertinentes pages d'Alexis de Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution sur la crise du régime féodal et la crise de la communauté villageoise, le beau livre d'Albéric de Calonne, La vie agricole sous l'Ancien Régime, en Picardie et en Artois, 1885. Je n'ai cité que quelques monographies, on pourrait évidemment en citer d'autres. Dès 1854, une première tentative de synthèse à l'échelon national avait été présentée par Dareste de la Chavanne sous le titre « Histoire des classes agricoles en France depuis Saint-Louis jusqu'à Louis XVI ». Synthèse sans doute prématurée, bien évidemment, mais qui témoigne d'un intérêt nouveau porté au problème du monde rural. En vérité, en cette fin du XIXe siècle ou en ce début des premières décennies du XXe, Pierre Brunet le dira mieux que moi tout à l'heure, l'apport novateur au tournant de ce siècle, ce n'est pas celui des historiens, c'est celui des géographes. Dans les grandes thèses de géographie régionale, les auteurs tiennent pour décrire les mutations économiques et sociales à partir du monde que nous avons perdu, en se plaçant avant les bouleversements révolutionnaires, qu'il s'agisse de révolutions politiques, de révolutions industrielles ou de révolutions agricoles, les auteurs se tiennent à étudier, en quelque sorte, ce passé. Et le concept de révolution étant alors communément admis, même dans la révolution agricole. Donc, en partant du présent, de leur présent, pour analyser et comparer, pour établir des filiations et des ruptures, les géographes ont ouvert aux historiens des perspectives nouvelles. L'histoire rurale, à partir de ce moment-là, ne pouvait plus être seulement analyse juridique de la condition des biens et des personnes, ou étude de la répartition de la propriété, elle devait, suivant le désir des géographes, englober le paysage, le parcellaire, les techniques, les résultats. Elle devait tenir compte du quantitatif et du matériel. À la veille même de la guerre de 14, l'ouvrage venu de Russie de Loutchinski ouvrait, on l'a dit, de nouvelles perspectives. Tandis que les géographes insistaient donc naturellement sur l'évolution du paysage et des systèmes de culture, les historiens se tournèrent vers la répartition sociale de la propriété et plus spécialement autour de la charnière révolutionnaire. On peut dire qu'en 1924, Georges Lefebvre, par-delà la coupure de la Première Guerre mondiale, donnait en quelque sorte l'œuvre modèle de ce style d'étude avec ses paysans du Nord pendant la Révolution française, cependant que la célèbre commission Jaurès pour l'étude de l'histoire économique et sociale de la Révolution multipliait les travaux sur les cahiers de doléances et la vente des biens nationaux. La guerre, et puis l'après-guerre. 1929, au moment où je devais téter mes premiers biberons, un professeur encore jeune, qui s'était intéressé aux serfs en s'intéressant d'abord au roi, ce qui évidemment était un cheminement original, prononçait en Norvège, à Oslo, une série de conférences qui devinrent, 2 ans après, un livre, « Les caractères originaux de l'histoire rurale française ». Un livre édité en français, mais en Norvège, ce qui, à l'époque, ne lui a pas assuré une diffusion extraordinaire. Mise au point voulue provisoire par l'auteur, qui le dit lui-même en souhaitant que, d'ici 10 ans ou 15 ans, il ne reste plus rien de son travail, mais aussi, nous le savons tous, mise en perspective au long des siècles, depuis l'an 1000 et même parfois avec des remontées nettement antérieures, jusqu'à la Révolution, mise en perspective des évolutions essentielles et des grandes articulations. Après 3/4 siècle, et je pense que peu ici me démentiront, l'ouvrage de Marc Bloch, malgré, disons, les corrections qu'il appelle, demeure fascinant par la hauteur de vue, par la qualité des hypothèses, car il ne s'agissait alors que d'hypothèses, puisqu'il n'y avait pas de travaux, par l'ampleur de l'information, sans parler de la beauté de la langue. Mais l'essentiel était sans doute dans l'attention nouvelle prêtée aux réalités matérielles, celles qui déjà attiraient les géographes, mais qu'avaient, il faut bien le dire, un peu dédaigné les historiens. La maison, la forme des champs, le mode de labourer, l'instrument utilisé. Mais le livre de Marc Bloch, « Les premières années », reste relativement peu connu. Et les études parues entre 1925 et 1940 demeurent le plus souvent dans les voies traditionnelles que j'ai plutôt définies. Études de la condition des biens, de la répartition de la propriété, du sort juridique des personnes. En 1932 encore, Lucien Febvre, peut-être un peu injustement, se moquait de ces historiens mettant en scène des paysans qui ne labouraient que des cartulaires avec des chartes en guise d'arrière. En vérité, et Lucien Febvre était déjà injuste, en vérité, les évolutions s'amorçaient, tandis que les annales retenaient l'attention des chercheurs par leur approche nouvelle des phénomènes. L'histoire des paysanneries médiévales continuait de susciter de grands travaux. L'ouvrage de Thérèse Claffer est de 1926. L'ouvrage d'Yvonne Bézard, malgré tous ses défauts sur la vie rurale dans l'archidiaconé de Josa, date de 1929, ce qui prouve que, dès cette époque-là, à l'école des chartes, on se préoccupait de problèmes véritablement liés à ce que nous appelons aujourd'hui l'histoire rurale. Le grand livre de Charles-Edmond Perrin est de 1935. La thèse de Déléage, le premier et hélas à peu près le seul élève que Marc Bloch ait eu le temps de former, est de 1941. De même pour l'époque la plus proche, Les études de Laurent sur le vignoble de la Côte d'Or dans la première moitié du XIXe siècle sont datées de 1931. Mais c'est l'histoire des temps modernes, jusque-là assez négligée, il faut bien le dire, qui désormais apparaît sur les rayons des librairies. Certes, dès 1906, Henri C. avait poursuivi son étude sur les classes rurales en Bretagne au Moyen-Âge, 1896, en fournissant la suite du XVIe siècle à la Révolution. Certes, les travaux de Rouppnel sur les populations de la ville et de la campagne dijonnaise au XVIIe siècle datent de 1922. Et surtout, dès 1926, Paul Raveau, qui n'était pas un universitaire, mais avait publié les travaux sur le Haut-Poitou, travaux qui ouvraient la voie féconde de l'utilisation systématique pour l'histoire rurale des fonds notariaux que, au même moment, les lois de 1928 mettaient plus commodément à la disposition des historiens lorsqu'au moins les notaires voulaient bien s'y prêter. On en était là, et vous voyez que je vais très vite dans ce parcours, mais après tout on m'a donné 20 minutes, on en était là à la veille de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire rurale existe en France. Elle suscite intérêt et recherche. On peut dire qu'elle est encore limitée dans ses ambitions et timide dans le renouvellement de sa problématique. Comme l'économie occidentale, on pourrait dire que l'histoire rurale a connu ses 30 glorieuses, en gros de 1945 à 1975. Trois influences ont joué dans cet essor spectaculaire. D'abord, la réédition des caractères originaux de Marc Bloch par un éditeur français en 1952 et le supplément procuré en 1956 par Robert d'Auvergne ont replacé au premier plan la pensée novatrice de Marc Bloch qui n'avait hélas pas eu le temps entre sa présence et même pas sa nomination comme professeur titulaire à la Sorbonne et sa révocation de former beaucoup d'élèves. Première influence. C'est après 1945 que la pensée féconde d'Ernest Labrousse a vivifié toute l'école historique française et pas seulement l'histoire rurale, car il n'était pas lui-même, nous le savons tous, un historien des campagnes. Mais il savait l'importance du monde paysan et de l'économie rurale dans ce qu'il appelait l'ancien régime économique. Il suscita, éclaira, guida, main chercheur. Et, troisième influence, je n'aurai garde d'oublier ici, le troisième homme, Jean Meuvray, incomparable éveilleur d'idées et de vocations, qui incita toute une génération de chercheurs, et nous sommes un certain nombre dans cette salle, à défricher, c'est bien le mot, l'histoire moins connue des campagnes du XVIIe et du XVIIIe siècle. Son séminaire des hautes études fut à la fois laboratoire et pépinière. Chacune de ses influences poussait vers certaines directions privilégiées. Côté Marc Bloch, toujours, l'évolution des paysages et des systèmes de culture. Côté Ernest Labrousse, les rapports sociaux et les mouvements nés des tensions entre les différents groupes, mais aussi la nécessité de réinsérer l'économie rurale dans le mouvement général de l'économie, dans la fameuse conjoncture empruntée et développée à partir de Simian. Côté Jean Meuvray, la piste féconde de la démographie historique, la notion de crise de subsistance, d'où naissait la nécessaire étude des mouvements de la production et de la productivité dans le monde rural. Ce sont ces renouvellements méthodologiques, ajoutés, complétant les directions précédentes, qui se mêlaient dans ces années 50, 60, 70, chez les jeunes chercheurs de ce temps, pour donner naissance, généralement dans le cadre d'une région, plus ou moins étendue suivant l'appétit de l'auteur et la documentation disponible, qui donnait naissance à ces grandes monographies, qui tentaient l'aventure d'une histoire totale, bien que localisée, à la fois structurelle et conjoncturelle, envisageant à la fois le peuplement, la mise en valeur du sol, l'analyse de la société, les modes de production, les rapports des groupes dominants et dominés. Faut-il énumérer des œuvres que nous manions en permanence, au risque soit d'en oublier, soit d'avoir l'air de faire sa propre promotion ou celle de ses petits camarades. Mieux vaut dresser la carte de nos connaissances. On reconnaîtra au passage les auteurs que je ne nommerai point. Pour le Moyen-Âge, l'Entre-deux-Mers, le Mâconnais, la Picardie, la Beauce, l'Île-de-France, un peu plus tard l'Auvergne et bien d'autres régions. Pour la première modernité, la Gâtine-Poitevine, le Beauvaisis, le Languedoc, le Hurepoix, la Bourgogne, le Cambrésis, la Provence, l'Anjou, la Bretagne. Pour le XVIIIe siècle, le Toulousain, la Haute-Normandie. Pour le XIXe siècle, l'Alsace, de l'ouvrage un peu négligé et oublié de Paul Leuillot, dans lequel il y a à apprendre. La Normandie décidément privilégiée, le Pas-de-Calais, l'Aquitaine, le Maine, le Beaujolais, la Bourgogne, les Alpes, j'en passe bien entendu. Vers 1970, alors que ces travaux étaient soit parus, soit en voie d'achèvement, une nouvelle synthèse générale paraissait à la fois souhaitable et possible, 40 ans après les caractères originaux. Mais là où un seul homme avait pu présenter l'ensemble des problèmes, c'est toute une équipe, rassemblée par Georges Duby et Armand Vallon, qui se mit au travail pour concevoir et rédiger les 4 volumes de l'histoire de la France rurale, parus en 1975-76. Chose curieuse, la publication de cette somme, au lieu de susciter par la constatation des lacunes, soit régionales, soit thématiques, de l'historiographie, au lieu de susciter de nouvelles vocations, semble plutôt les avoir découragées au moins un certain temps. Il est vrai que les tendances générales de l'historiographie évoluaient. L'histoire économique et sociale, soupçonnée plus ou moins de flirter avec un marxisme que l'on avait tendance désormais à rejeter, l'histoire économique et sociale souffrait de cette confusion. Et ce n'est peut-être pas sans... Moi, personnellement, je suis contre, mais ce n'est peut-être pas sans raison que les annales économie, société, civilisation viennent de changer de nom. La promotion du troisième niveau, chère à Pierre Chaunu, entraînait désormais beaucoup de chercheurs vers les rivages de l'histoire des idées et des mentalités. Et, d'autre part, l'époque des grandes synthèses régionales semblait révolue. Le cadre de la recherche, écrivait Braudel, rendant compte de la thèse de Pierre Goubert, ce n'est pas la région, c'est le problème. On préférait, en effet, plutôt des études sectorielles ou des études thématiques. Ceci dit, et je m'en suis aperçu, on était parti de cette idée qu'au fond, depuis 75-80, l'histoire rurale était en perte de vitesse, bon, etc. À vrai dire, parler d'un silence de l'histoire rurale après 1980 serait injuste, car ce serait oublier l'effort mis sur l'étude de la production, avec les 2 grandes enquêtes initiées par Emmanuel Leroy-Ladurie et Joseph Goy, et parues dans ces années-là, la thèse Vignerol de Marcel Lachivert, 1982, le travail de Farcy sur la Beauce, le travail d'Alain Molinier sur le Vivarais, de Jacques Bottin sur le Pays de Caux, 83-85, plus proche sans doute du modèle classique de la monographie, l'œuvre forestière d'André Corvol, la thèse d'André Guélin sur le crédit agricole qui touche quand même à nos problèmes. Sans oublier des études menées d'un autre point de vue, mais qui concernent profondément le monde rural, sur la violence, les contestations, la religion populaire, les systèmes d'héritage, la maintenance de l'exploitation familiale à travers les difficultés justement des successions. Ceci dit, toutes ces études, sectorielles ou thématiques, touchent au monde rural, mais sont en quelque sorte une approche sous un autre angle de ce qui est l'objet de notre propos. Je n'aurais garde d'oublier que l'école historique française ne s'est pas cantonnée à l'hexagone, mais qu'elle a essayé souvent d'en sortir. De jeunes chercheurs se sont tournés vers l'Italie sur les traces de Pierre Touvert ou de Jean de Lumeau. Je pense à Gérard Delisle et à d'autres, bien sûr. Quant à la péninsule ibérique, après le travail pionnier de quelqu'un qui n'était d'ailleurs pas un historien, Noël Salomon, beaucoup de chercheurs français se sont intéressés en liaison étroite avec les efforts de nos amis espagnols à l'histoire rurale de la péninsule. En dehors des géographes que je laisse, il faudrait parler de la thèse de Silbert sur le Portugal, 1966, de Bonacier, 75, et puis de Benassar, qui parle de la ville, mais qui parle aussi des campagnes, et puis les travaux de Bernard Vincent, les travaux de Pierre Pinceau, sans pour arriver à Francis Brumont, ou à Amalric, et à toute l'école actuelle d'études sur la ruralité ibérique. Des slavisants français ont travaillé sur le grand domaine en Russie, Confino, 1969, et sur le Mire. En revanche, les Français ne se sont guère intéressés, il faut le dire, à l'histoire rurale de nos voisins anglais, de nos voisins belges, ou même de nos voisins allemands, car en dehors de la thèse de Dollinger, qui date de 1949, je ne vois pas grand-chose à rassembler. Il est vrai que le terrain est là solidement tenu par nos collègues de ces pays. On est donc allé encore plus loin, car après tout, la thèse de François Chevalier sur le grand domaine au Mexique, 1952, les travaux de Frédéric Moreau sur le Brésil, les travaux de Lucette Valinci sur la Tunisie, sans parler de bien d'autres et sur bien d'autres régions, montrent que les historiens de la ruralité, les historiens français de la ruralité, ne se sont pas enfermés complètement dans les limites de l'Hexagone. Je conclus, car il est temps. Y a-t-il une spécificité de ce que j'appellerais l'approche gauloise de l'étude du monde rural? À vrai dire, je ne le pense pas. Nos méthodes se sont inspirées de celles de nos collègues des pays voisins. Elles ont à leur tour inspiré les collègues des pays voisins. Et je pense en vérité que si histoire rurale il y a, ce que je crois, ces méthodes et ces modalités d'approche de la réalité du monde agricole doivent être les mêmes dans la grande famille historique qui déborde les limites de la France. Je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai répondu un peu à ce que Jean-Marc attendait.